Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, les robots feront-ils de bons juges ? L'intelligence artificielle grignote peu à peu nos modes de vie. Jusque-là, un terrain échappait encore à cette vaste conquête, celui de la justice. Mais plus pour longtemps, l'Estonie, qui a fait des technologies numériques son principal axe de développement, s'apprête à déléguer certaines affaires judiciaires à des robots. Ils seront amenés à juger de manière autonome des délits mineurs et c'est une grande première. Alors à vrai dire, ce n'est pas la première incursion de l'intelligence artificielle dans le monde de la justice. Encouragée par l'ouverture des données et par leur mise à disposition du public, plusieurs sociétés se sont lancées dans ce qu'on appelle la justice prédictive. Il s'agit à partir d'une masse d'informations judiciaires d'estimer par exemple les chances qu'une affaire aboutisse ou encore les risques de récidive. L'idée, c'est de faire gagner du temps aux avocats et aux magistrats, de les accompagner dans leur prise de décision, ce qui pose déjà un certain nombre de questions sur la qualité des jugements. Mais l'Estonie s'apprête donc à franchir un nouveau cap en déléguant ses décisions à des machines. Alors la justice en sortira-t-elle plus équitable ? Et les robots feront-ils de bons juges ? C'est la question du soir, en compagnie de trois invités. Florence Gsell, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de droit privé à l'Université de Lorraine, chercheuse associée à l'Institut des hautes études sur la justice, co-titulaire de la chaire numérique, gouvernance et innovation institutionnelle à Sciences Po. Et vous avez participé à un rapport de l'Institut Montaigne, c'était en 2017, rapport intitulé « Justice, faites entrer ». Le numérique. Pour discuter avec vous, Benjamin Jean, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'association Open Law. C'est une association qui milite pour un droit ouvert et pour un rapprochement entre monde judiciaire et monde numérique. C'est bien cela ?
Tout à fait.
Et puis notre troisième invité, il est en duplex des studios de France Bleu à Aix-en-Provence. Il s'agit d'Emmanuel Poinas. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes magistrat, conseiller à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, délégué général du syndicat SDMAJ, et vous avez publié, il y a quelques semaines de cela, aux éditions Berger-Levrault, Le tribunal des algorithmes, jugé à l'ère des nouvelles technologies. Alors on va avoir évidemment l'occasion au cours de cette émission de revenir sur ce qui se prépare en Estonie, ce qui nous attend peut-être à l'avenir, mais je voudrais qu'on commence peut-être un peu, disons, par le commencement et par l'état de la numérisation dans le monde judiciaire. Je disais Benjamin Jean, donc président de l'association Open Law, qui vise à favoriser l'accès au droit et à la justice pour les justiciables. Est-ce que pour vous, le numérique, c'est quelque chose justement qui est susceptible de favoriser cet accès ? Et est-ce qu'aujourd'hui, en France, c'est quelque chose qui vous semble suffisamment développé ou bien est-ce qu'on est un petit peu à la traîne ?
Alors c'est une question qui... La réponse peut être très longue. Première chose, je...
Vous avez un peu de temps, mais oui, pas 40 minutes non plus.
En fait, je pense que le numérique, c'est un moyen. Je pense que c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. Et c'est un outil qui peut être... qui a vocation à être utilisé dans plus en plus de pans de notre société. Le secteur du droit en fait partie, comme bien d'autres. Peut-être que l'enjeu que présente le numérique appliqué au secteur du droit... C'est justement toute la dimension éthique qu'on va évoquer à mon avis au cours de l'émission, mais donc l'impact que ça peut avoir en termes d'accès au droit et d'accès à la justice, là où dans d'autres domaines on peut être plus sur une question d'efficience économique ou d'autres sujets qui seraient plus des sujets d'acteurs privés. Pour ce qui concerne l'activité d'Open Law, même l'action d'Open Law depuis ses débuts, c'est donc on est relativement jeune, c'est initiative qui a été lancée en 2014, l'association réunit à la fois des acteurs publics et privés, je le dis parce que ça montre aussi peut-être l'ADN de la structure. Et le but, c'est de se dire que finalement, le sujet du numérique va amener à penser l'innovation dans le champ du droit, à la fois en termes de nouveaux outils, mais aussi en termes de nouvelles façons de travailler ensemble. C'est-à-dire que le numérique crée des liens, favorise la collaboration, les échanges, et potentiellement aussi... certaines co-constructions, en tout cas de nouveaux usages. Je pense que l'un des points importants, je pense qu'on le développera aussi au cours de l'émission, c'est l'open data des décisions de justice.
L'open data, c'est-à-dire voilà, la mise à disposition du grand public des décisions judiciaires.
C'est ça. Des textes qui étaient accessibles, alors pas que, mais principalement auprès des tribunaux, auprès des greffes des tribunaux, là vont pouvoir être accessibles de manière numérique par toute personne qui souhaite avoir accès à ces décisions de justice, ce qui est bien pour l'accès au droit pour chacun, mais aussi ce qui favorise la création, en tout cas, ce qui permet à de nouveaux acteurs de pouvoir proposer de nouveaux services grâce à toutes ces données qui existent alors qu'elles n'existaient pas auparavant.
Alors on va voir justement que c'est un secteur en ébullition, mais il y a notamment alors un portail qui est le portail officiel qui s'appelle justice.fr, Florence Gdel, alors sur lequel il y a énormément d'informations qui sont publiées désormais, donc ça pour le justiciable c'est important. Il y a des simulations même, hein. On peut savoir à peu près ce que l'on peut attendre dans certains types de procédures, et puis on attend dans les prochains mois, semble-t-il, de la saisine en ligne, là aussi pour certaines procédure. Est-ce que ça faisait partie justement des préconisations et des pistes, en tout cas, que vous aviez envisagées dans le rapport de l'Institut Montaigne auquel vous avez participé?
Oui, absolument. Et avant de vous répondre sur ce point, je voudrais citer un document qui est sorti il y a quelques semaines et qui nous vient de la Commission européenne, puisque la Commission européenne a publié le 26 avril dernier, donc il y a très peu de temps, l'édition 2019 de son tableau de bord de la justice dans l'Union européenne. Alors c'est un tableau de bord qui est élaboré sur l'année 2018, mais qui opère un classement de notre système judiciaire à partir de tout un tas de critères. Et nous sommes en 19e place du classement européen pour tout ce qui relève de la mise à disposition des moyens électroniques. Et pour tout ce qui relève de l'information des justiciables par des moyens électroniques comme le SMS, le courriel, nous sommes à la dernière place pour l'instant. Mais nous avons la loi de programmation de la justice qui a été votée en mars dernier et qui prévoit, entre autres choses, bien évidemment, que ce portail justice.fr bien soit totalement amélioré de manière à prévoir précisément ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la saisine des tribunaux en ligne.
Alors l'avantage quand on est dernier d'un classement, c'est qu'on ne peut que progresser, hein, a priori, dans ce classement. Emmanuel Poinat, sur cette question justement de l'accessibilité, peut-être de la démocratisation de l'accès à la justice, est-ce que ça c'est une des choses qui est attendue du côté du numérique, mais est-ce que ça peut pas être aussi une façon peut-être de pallier l'éloignement de certaines institutions judiciaires? Éloignement géographique, c'est-à-dire que on rapproche d'un point de vue numérique parce que on est peut-être plus éloigné des instances qui rendent la justice.
C'est une question extrêmement complexe que vous posez, d'abord parce que les lois de la physique sont ce qu'elles sont et que la proximité géographique, ça reste important quand on est en situation de voir sa vie évaluée par un tribunal. Ce qui est actuellement promu, c'est la mise à disposition d'informations par le gouvernement sous diverses formes. Et la question, en revanche, du transfert des compétences ou du transfert de dispositions qui encadrent directement le jugement, c'est une question beaucoup plus complexe et on ne peut pas tout mettre sur le même plan. Et moi, ce que je redoute, si vous voulez, c'est que dans le cadre d'un mouvement qui est celui, effectivement, de rendre la justice plus lisible, on aboutisse à encadrer très précisément, à travers la publicité des décisions, le travail des juridictions, de la part d'instances qui dépendent ou pas du ministère de la Justice. Et là, on peut, à travers l'open data et l'open government, arriver a des effets extrêmement peu maîtrisés sur la liberté publique et sur le travail des tribunaux. Oui, et mon inquiétude est celle-là.
Ouais, parce qu'il faut dire, alors voilà, l'open data, donc ce sont énormément de données qui sont mises à disposition du public, à disposition aussi de sociétés qui se sont créées justement pour essayer de les traiter, pour en tirer des éléments, alors qu'ils sont des éléments d'ordre statistique, pour aider à la décision notamment des professionnels de justice, que peuvent être les avocats ou que peuvent être les magistrats, dans la mesure justement où c'est susceptible de faciliter le travail du magistrat que vous êtes, Emmanuel Poinas, est-ce que ça n'est pas d'abord quelque chose que vous devriez accueillir avec davantage d'enthousiasme, disons? Manifestement, non.
Encore une fois, c'est une question complexe parce que, si vous voulez, mon travail, je suis payé pour le faire au bénéfice des justiciables. Et je ne doute pas que tous les intervenants sur ce plateau aient ce souci, c'est-à-dire rendre la justice plus lisible et plus efficace. Mais est-ce que c'est parce que j'aurai connaissance des 12 millions de contraventions qui sont traitées dans ce pays ou des 250 000 ou 300 000 divorces qui sont rendus chaque année que cela me sera utile pour apprécier l'affaire qui me sera soumise et qui est construite sur des variables qui sont toujours spécifiques? C'est-à-dire que le problème, c'est que il faut bien que vous compreniez qu'un jugement, c'est une affaire qui est racontée par les parties et que le juge doit apprécier, mais ce sont toujours des cas particuliers. Et juger, c'est justement pouvoir appliquer une norme générale à des cas particuliers. Si on est sur des outils qui encadrent, qui guident le choix du juge avant même que la procédure ne soit présentée et élaborée, on est en train de basculer d'un système judiciaire vers un autre type de système. Alors c'est parfaitement possible, j'ai rien contre, et on peut poser la question aux Français pour savoir si c'est ça le modèle qu'ils veulent, mais il faut que toutes les variables soient posées sur la table, et on ne peut pas progresser petit bout par petit bout. Et pour revenir sur la loi Le Maire, qui est la loi qui a permis ce qu'on appelle l'open data des décisions de justice, c'est-à-dire la diffusion maximale de toutes les décisions de justice, 2 ans après le vote de cette loi, les décrets d'application sont toujours pas pris parce qu'à l'époque, il y a eu des problèmes qui ont été évacués, qui n'ont pas été traités et devant lesquels, aujourd'hui encore, on ne sait pas comment ces dispositions doivent être mises en place. Donc, à partir de là, élaborer des outils qui visent à faciliter le travail des tribunaux, ça reste extrêmement problématique.
Benjamin Jean et Florence Gzel, Benjamin Jean, je vais commencer par vous, mais est-ce que vous partagez les réserves d'Emmanuel Poinas sur la façon dont peuvent être, ou dont sont peut-être d'ailleurs déjà utiliser justement ces données massives, dans les décisions de justice aujourd'hui, en tout cas dans le soutien aux professionnels de justice. Benjamin Jean.
Alors, les réserves, oui, dans le sens où je pense qu'il faut vraiment être vigilant au regard des conséquences que ça peut avoir à l'échelle de la société globale. Ensuite, je pense quand même qu'il faut prendre en considération que les données pour certains acteurs étaient déjà accessibles. C'est-à-dire qu'on était dans une situation où seulement certains étaient en capacité d'avoir à la fois les données et les capacités de traitement de ces données pour pouvoir bénéficier de ces capacités à évaluer les risques, prendre des décisions, comme ce que maintenant d'autres peuvent envisager faire grâce à l'open data qui l'a d'une certaine façon démocratisé. Ensuite, ce sont effectivement des sujets qui bouleverse, je pense, alors peut-être qu'il ne faudrait pas le présenter comme ça, mais qui ont des effets conséquents même sur l'ordre, à mon avis, judiciaire, parce que sur la manière dont fonctionnent les différents tribunaux, et effectivement sur... faut pas non plus que le magistrat ait à rendre compte directement d'une décision qu'il a pu prendre. Il est souverain dans l'appréciation, il ne faut pas que ce soit une faculté de juger le magistrat, parce que ce n'est pas du tout comme ça que ça a été pensé, et il ne faut pas que ça aboutisse à ça.
Ça a été pensé comment d'ailleurs justement? C'est-à-dire les sociétés par exemple qui proposent justement de faire ce tri, et de faire ce travail sur les données qui sont aujourd'hui disponibles pour une aide à la décision. Elles fonctionnent comment?
Aujourd'hui, je ne suis pas un expert des différentes solutions qui existent, mais pour celles que je connais, finalement, c'est le principe du big data d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elles vont agréger le maximum de données, et de ça, elles vont pouvoir en déduire des tendances pour certaines, pour d'autres, ça va être de l'aide à la décision, identifier les arguments principaux qui pourraient être utilisés dans tel ou tel contexte. Ça peut être des évaluations aussi de la durée du jugement. On regarde d'autres jugements similaires, ils vont faire des statistiques, de l'analytique pour certains. Et donc, c'est concrètement, c'est des choses que faisaient déjà des très gros cabinets, c'est des choses que faisaient déjà des très grosses entreprises, sauf que là, ça va être fourni peut-être moins cher par d'autres acteurs. Et l'une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut reposer uniquement sur le secteur privé ou est-ce que le secteur public, lui aussi, doit d'une certaine manière apporter, c'est une discussion qu'on a vue juste avant de prendre l'antenne, mais apporter aussi ces services.
Florence Zell.
Oui, moi j'aurais envie de rappeler quand même que la justice, elle est rendue au nom du peuple français et que c'est une garantie démocratique pour les citoyens que d'avoir accès aux décisions de justice qui sont rendues en France. Alors bien évidemment, il faut être tout à fait conscient des difficultés que cela posait et que cela pose. Il y a la question de la protection des citoyens, la protection des justiciables. Bien évidemment, on n'a pas nécessairement envie que le contenu de son jugement divorce soit rendu public. Il y a énormément de données personnelles qui sont contenues dans les décisions. Et puis, il y a aussi la question de la protection des magistrats eux-mêmes, mmh. avec une crainte qui existe depuis effectivement cette loi République numérique, qui est celle du profilage, qui est quelque chose qui existe aux États-Unis, où on a accès aux décisions, et en tout cas à toutes les décisions fédérales, quelles qu'elles soient, par principe, et où on a aujourd'hui des logiciels qui vous permettent, en tapant le nom d'un juge, eh bien, de voir sortir une feuille A4 avec des statistiques qui synthétisent tout ce que ce juge a fait, décidé depuis le début de sa carrière. Et cela, bien évidemment, cela peut conduire à toutes sortes de dérives. Donc je pense qu'il faut arriver à arbitrer, à trouver le bon compromis mmh. entre l'information qui doit circuler et la protection à la fois des justiciables et des magistrats eux-mêmes.
Est-ce qu'une des dérives possibles, Florence Axel, ça peut être d'influencer la décision d'un juge, de se dire, ben, puisque manifestement, ce que nous disent ces traitements statistiques, c'est que dans une affaire, je ne sais pas, mettons par exemple, de pension alimentaire, dans les affaires de pension alimentaire, voici quelles sont les décisions qui sont prises la plupart du temps, d'hésiter peut-être à aller contre les décisions majoritaires, parce qu'on justement, on a cette information. Et je poserai évidemment la même question à Emmanuel Poinas.
Oui, je pense que sur tout ce qui relève de données chiffrées, c'est-à-dire le montant d'une pension alimentaire, c'est-à-dire l'indemnisation qu'on perçoit dans le cadre en cas de dommages corporels, évidemment, disposer de données de cette nature qui proviennent des centaines et dans des centaines de décisions passées, ça ne peut qu'influencer un juge. Mais ça concerne quand même des décisions bien particulières. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on puisse faire tourner des algorithmes sur ces bases de données de décision qui vont vous dire ce qu'il faut décider dans des cas beaucoup plus complexes et qui posent des problèmes juridiques de fond.
Est-ce que le libre arbitre du juge, Emmanuel Poinas, peut être remis en cause par le traitement en masse de ces données par des intelligences artificielles?
Alors, il faut distinguer plusieurs matières. Déjà, en France, il faut rappeler que le traitement des données pénales est interdit, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, puisque l'un des cas les plus fameux d'utilisation d'algorithmes, c'est l'affaire Loomis contre Wisconsin. Je tiens à rappeler que Monsieur Loomis a essayé de remettre en cause un algorithme élaboré par une société privée, et que la Cour suprême des États-Unis, qui avait été saisie, a refusé de se saisir du cas, et que l'algorithme qui opposait à Monsieur Loomis un risque de récidive ne lui a jamais été communiqué. En France, on est dans un système assez différent puisque le pénal est exclu. En revanche, en matière civile, si toutes les décisions sont accessibles en respectant un minimum de données qui doivent être anonymisées, le risque de voir imposer des normes de travail, et y compris aux avocats d'ailleurs, et aux magistrats, est réel. Parce que les affaires, c'est pas parce qu'elles sont nombreuses qu'elles sont simples. Il faut absolument pas confondre le fait qu'il y ait beaucoup de divorces et le fait que les divorces soient simples. Et dans les divorces complexes, on est dans des situations qui peuvent être également extrêmement hétérogènes. Donc on est sur des problématiques qui sont complexes, pour lesquelles actuellement nous n'avons aucune disposition qui garantit la transparence des outils qui sont déployés. Nous n'avons aucune certification des algorithmes. Nous n'avons aucune réflexion sur la nature du produit juridique qui résulte d'une consultation algorithmique. On ne sait pas si c'est une preuve, on ne sait pas si c'est un témoignage, on ne sait pas si c'est une simple indication de procédure. Et tout ça n'est pas traité. Donc moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on puisse avoir un développement de l'entreprise privée et de l'action publique dans ces domaines-là, mais encore faudrait-il que les respects des libertés publiques soient posés comme un principe et que ce principe puisse se traduire dans des textes. Pour l'instant, ces textes n'existent pas et mon inquiétude, c'est qu'on est en train d'expérimenter des choses qui peuvent avoir des incidences extrêmement concrètes sur des situations individuelles très complexes et que le contrôle démocratique qui s'exerce reste encore extrêmement limité. Mais dès lors que le Parlement et le gouvernement se saisiront et mettront en place des outils qui sont démocratiquement validés, moi je ne vois aucun problème pour appliquer ces nouvelles directives.
Et en même temps, il faut bien faire des tests pour pouvoir ensuite faire des textes de loi. Ben, Benjamin Jean, est-ce que de ce côté justement de ce qui peut être expérimenté, est-ce que finalement l'expérimentation est toujours en avance sur la loi ? Est-ce que ce qu'évoquait Emmanuel Poinas s'agissant alors de des récidives avec ces intelligences artificielles qui essaient de prédire, hein, on est vraiment dans la prédiction, même si c'est adossé à des traitements statistiques sur des données extrêmement importantes. Mais est-ce que cette question de la récidive, ça fait partie des choses qui sont aujourd'hui testées, imaginées en France? Est-ce que ça vous le savez ou
bien... Non, à ma connaissance, pas du tout, hein, parce qu'effectivement, dans tous les cas, les projets sur lesquels, au sein d'Opel, on a pu être amené à travailler, ne concernent pas le pénal et on n'est pas du tout dans cette... En tout cas, c'est pas là qu'il y a le plus à faire. C'est un moment là où c'est le plus dangereux d'ailleurs d'avancer. Et l'idée aussi de pouvoir innover, d'explorer, c'est de le faire là où les acteurs peuvent le faire en confiance et sans risque trop fort. Mais juste deux remarques. La première, c'est que dans la loi pour une République numérique, il y a aussi un principe d'ouverture des algorithmes, de transparence des algorithmes. Et que je pense qu'il est intéressant pour la question qu'on se pose de le remettre sur le devant de la scène. C'est-à-dire qu'effectivement, si un algorithme est utilisé pour aboutir à une décision qui toucherait un individu, nécessairement cet algorithme devrait être ouvert. Et plus que l'algorithme, ça c'était dans le dernier rapport de la Cour des comptes, ce qui était préconisé, c'est que le logiciel qui met en œuvre cet algorithme, lui-même devrait être ouvert de telle sorte à ce que n'importe qui sache comment en fait, l'ordinateur a fonctionné, comment le logiciel a pu aboutir à telle solution.
Comment il a été construit aussi ce logiciel? Alors, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des hommes et des femmes derrière. Exact. Qui peuvent avoir des biais, et c'est aussi un des problèmes, c'est que les biais, quand ils sont reproduits de manière extrêmement importante du fait justement de cette massification des données, ça peut là aussi orienter des décisions de justice, donc ça c'est problématique.
Complètement. Alors, pour revenir sur la manière dont on fonctionne au sein de Panneau, l'idée c'est de réunir tous les acteurs qui s'intéressent à un sujet, donc dans le monde du droit, et de les faire travailler sur un livrable, en tout cas un premier projet qui sera complètement qui servira à tout le monde. L'un des programmes qu'on avait mené était sur intelligence artificielle et droit, donc on est en plein sur le sujet, et l'idée c'était de réfléchir à une méthodologie de conception de base de données d'entraînement d'algorithmes. Alors dit comme ça c'est un peu abrupt, mais l'algorithme pour pouvoir ensuite donner des réponses a besoin d'être entraîné, et si les données qu'on lui fournit pour qu'il puisse lui-même plus tard fournir des décisions sont biaisées, lui-même va reproduire les biais. Et donc ça se passe dans tous les secteurs, et le secteur du droit en fait partie. Et ça, c'est un travail qu'on a fait avec... c'était dans le cadre d'un projet de la CNIL, on l'a fait avec la Cour de cassation, on l'a fait avec des centres de recherche, on l'a fait avec des éditeurs privés. Ça qui était intéressant aussi, d'avoir à la fois d'acteurs privés et d'acteurs publics. Il y avait aussi des particuliers qui s'intéressaient à ce sujet. Et je pense que l'un des points qu'on a... Bon, il y avait la question de la méthode. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment doit-on le faire? Mais aussi l'objet final qui est cette base de données d'entraînement d'algorithmes qui est importante. C'est-à-dire que à la fin du programme, on a été en capacité de partager une première base de données qui permettait à tout le monde d'avoir un entraînement de son algorithme pour un certain nombre de fonctionnalités. Alors c'était un projet d'une année, donc c'était un premier pas et il en faudrait d'autres. Mais qui soit dans lequel tout le monde puisse avoir confiance, notamment parce qu'on l'a fait ensemble et qu'on l'a fait avec cette dimension éthique en tête dès le début.
Alors la confiance, effectivement, c'est un mot extrêmement important, en particulier en matière judiciaire. Florence Gzel, je voudrais qu'on en vienne à présent donc à ce que nous annonce le gouvernement estonien, cette étape supplémentaire vers un tribunal des algorithmes, pour reprendre le titre du livre d'Emmanuel Poinas, avec l'idée donc que certaines décisions de justice, alors qu'il serait des décisions qui concerneraient des affaires dont les jugements seraient limité à 7000 euros. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond précisément dans le droit estonien, mais enfin en tout cas ce serait des affaires, qualifions-les de secondaires, et donc de laisser des machines de manière totalement autonome prendre des décisions. D'abord j'aimerais savoir ce que vous en pensez, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît intéressant, qui mérite d'être étudié, de très effrayant? Comment est-ce que vous répondriez à ça, Florence Gzel?
Alors je trouve ça très intéressant et peut-être effrayant. D'après ce que je comprends et ce qui a été annoncé par le gouvernement estonien, on serait dans des affaires, en tout cas c'est ce qu'il souhaite faire pour l'instant, c'est d'abord se concentrer sur des litiges en matière de contrat. Donc des petits litiges qui implique des justiciables qui ont un différend probablement concernant l'exécution d'un contrat, un contrat qui n'a pas été exécuté, quelqu'un qui n'a pas payé la somme qu'il devait ou qui n'a pas exécuté une prestation.
Et voilà, j'ai vu qu'il y avait aussi les excès de vitesse, par exemple, qui pourraient entrer là-dedans aussi.
Alors, ce sont effectivement des affaires dans lesquelles il n'y a pas une très grande appréciation des faits. Maintenant, et il me semble clair, alors peut-être pas pour les excès de vitesse, mais pour les questions d'ordre contractuel, la part d'appréciation d'un dossier, elle est toujours relativement importante. Il suffit d'assister à une demi-journée d'audience dans un tribunal d'instance pour se rendre compte qu'à l'audience, il y a des choses qui apparaissent et qu'on finit par se rendre compte que la somme n'a pas été payée ou la prestation pas exécutée pour telle ou telle raison. Donc, je suis quand même un petit peu dubitative sur la faisabilité de ce qui a été annoncé, mais ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer.
Est-ce que pour vous, Emmanuel Poinas, il y a des décisions judiciaires qui peuvent se passer de l'appréciation humaine et qui peuvent être déléguées à des machines, à des intelligences artificielles ?
Alors déjà, je voudrais revenir sur le cas de l'Estonie. En deux mots, c'est un pays qui fait 45 000 km², donc c'est la taille de la région Rhône-Alpes à peu près, et il y a la population des Yvelines, 1400 personnes dessus. Et le salaire moyen est à peu près 1 300 €, donc 7 500 € pour un litige, c'est quelque chose de très important au niveau du niveau de vie local.
Vous avez dit 1400 personnes dessus, c'est quoi ?
1 400 000 personnes, pardon.
1 400 000 personnes, ça me semblait pas beaucoup.
1 400 000 personnes, voilà, non, excusez-moi, c'est un... Voilà, je vous l'avais fait hors taxe. Plus sérieusement, l'Estonie est un pays qui a aussi une histoire très particulière, parce que c'est un vieux pays, mais un très jeune État, qui a fait très tôt, puisque ça fait plus de 10 ans maintenant, qu'ils sont sur cette logique de gouvernement virtuel. Et c'est le prolongement d'un système qui existait déjà en termes de dématérialisation d'un certain nombre de traitements des procédures. Donc on est sur quelque chose qui est déjà assez expérimenté et assez naturel dans la société estonienne. Savoir si on peut déléguer à un ordinateur le traitement de problématiques judiciaires, en France ça existe déjà, puisque c'est le traitement des contraventions qui est quasi automatiquement traité par le système qui est en poste à Rennes, notamment l'officier du ministère public de Rennes. Il y a 12 millions de contraventions en France chaque année, et c'est vrai que l'automatisation est très très généralisée. Mais je voudrais rappeler qu'un ordinateur, c'est quelque chose qui ne comprend rien. Ça ne peut que calculer et ça ne peut que reproduire un certain nombre de dispositions qui ont déjà été intégrés dans la programmation de l'ordinateur. Et c'est pour ça que je rends hommage à l'honnêteté intellectuelle de Madame la professeure sur le caractère dubitatif de la possibilité de pouvoir déléguer à des machines qui ne comprennent rien des appréciations sur des comportements humains. Pour finir sur la situation des injonctions de payer ou du contrat de crédit à la consommation en France, je rappelle qu'il y a beaucoup de dispositions d'ordre public destinées à protéger le consommateur, et que c'est un droit extrêmement complexe.
Alors, faut quand même préciser, pardonnez-moi Emmanuel Poinas, que en Estonie, au moins au début, je ne sais pas si ça durera, mais ils ont prévu quand même qu'il y ait des garde-fous, et notamment que le fait que si les justiciables ne sont pas contents de la décision qui a été rendue, ils pourront demander à passer devant un juge. Donc, il y a quand même toujours...
C'est le système français, ouais. Pour les contraventions, c'est la même chose. Mais la question, c'est est-ce que vous contestez vos contraventions systématiquement ?
Alors moi, je n'ai pas de voiture, donc je n'ai pas de contravention. Si la question m'était
voilà,
adressée. Mais Benjamin Jean, en préparant l'émission, vous nous avez dit que sur certains litiges, on pouvait tout à fait envisager une automatisation, on va dire, des décisions judiciaires. Par exemple, les litiges qu'on peut avoir avec des compagnies aériennes quand il y a des retards importants. Pourquoi est-ce que là, ça vous paraîtrait quelque chose de compatible avec la robotisation, on va dire, de la décision judiciaire?
Alors, c'est analysé avec plus de détails que ce que j'ai pu faire, mais c'est un exemple qui est intéressant parce que l'Europe, en fait, a une grille assez précise qui s'impose donc aux différentes compagnies aériennes et qui les soumet à une indemnisation plus ou moins élevée en fonction du retard et du nombre de kilomètres du vol. Donc on sait que il y a des barèmes. Si on a 3-4 heures de retard pour un vol de 5-6 000 km, on a, je dis n'importe quoi, 200, 250 ou 300, 350 euros qui nous sont dus. Là, ce qui se passe, c'est que, et encore une fois, tout ça est vérifié, mais les tribunaux dont dépendent les aéroports de Roissy ou d'Orly sont particulièrement concernés par le sujet. Lorsqu'une personne veut pouvoir prétendre à son droit, aujourd'hui, la solution, c'est de demander à un avocat. En tout cas, la solution était à l'époque de demander à un avocat. Il y a quelques qui allaient plaider pour cette personne. Il y a quelques, donc Legal Tech, en tout cas des entreprises qui sont mises sur ce sujet et qui proposent d'automatiser en fait tout le processus à la fois de négociation, donc avec la compagnie aérienne, et ensuite de représentation. Donc elle va elle-même demander à un avocat de nous représenter. Et ça permet, j'ai eu l'occasion de le tester, ça permet effectivement d'avoir gain de cause. Mais ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que des retours que j'avais eus des personnes concernées, finalement la réglementation européenne qui donc est très stricte, n'est pas nécessairement adaptée à une situation où toutes les personnes qui subiraient un tel retard demanderaient l'indemnisation.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de non-recours, c'est-à-dire ça paraît tellement compliqué que, en général, quand on a un retard important, on ne va pas forcément faire les démarches. Si c'est automatisé, il y aura beaucoup plus de recours, donc ça va coûter beaucoup plus cher aux compagnies aériennes, parce que c'est vrai que les indemnisations sont assez généreuses, on va dire, quand il y a des retards importants. Donc ça risque peut-être de poser des problèmes et de quoi d'obliger à revoir la loi finalement.
La réflexion que je me faisais en tout cas dans nos échanges, c'est que autant c'est assez simple d'automatiser, alors ce sera un algorithme particulièrement bête, mais qui pourra appliquer des règles pour pouvoir juger, en tout cas de décider d'une indemnisation de telle ou telle sorte. Mais effectivement, la conséquence pour les entreprises et pour le secteur serait très importante et il faudrait certainement revoir à la baisse la réglementation européenne pour que ce soit plus adapté à ce que les compagnies aériennes peuvent réellement payer. Donc, mais ce qui est peut-être une bonne chose, parce que ça veut dire aussi que la loi correspondrait peut-être mieux à l'application qui en est réellement faite.
Alors ça, c'est vrai que c'est un élément de réflexion qu'on ne pense pas toujours forcément quand on parle d'intelligence artificielle. Les questions éthiques, elles reviennent beaucoup et c'est assez normal, Florence Ogdel. Mais l'impact que cela peut avoir, c'est-à-dire cette avancée des intelligences artificielles dans le domaine judiciaire, l'impact sur la loi, sur le contenu des lois, là aussi, c'est quelque chose à quoi il faut réfléchir, peut-être avant de mettre en place des systèmes beaucoup plus élaborés.
Oui, j'aurais envie de dire beaucoup plus largement sur le contenu du droit ou même la forme du droit. Il y a beaucoup d'universitaires américains qui réfléchissent à l'heure actuelle parce qu'ils pensent, mais parce qu'ils réfléchissent dans leur système et à partir de ces expérimentations, enfin ces expériences qu'on a évoquées de recours, par exemple, à des algorithmes qui prédisent d'éventuelles récidives, eh bien, qui pensent que pour finir, les juges et plus largement les juristes vont céder de ces outils à tel point que la forme du droit finira peut-être par être différente. On parle beaucoup de ce qu'on appelle la personnalisation du droit, c'est-à-dire qu'on adapterait des règles générales à la personne des justiciables. Je vais donner un exemple tout bête, mais c'est une question qu'on se pose aujourd'hui pour ce qui relève de la responsabilité médicale. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des logiciels qui sont relativement sûrs en matière de diagnostic. Par exemple, pour diagnostiquer un cancer de la peau. Et on se dit, d'accord, les médecins vont commencer à travailler avec ces outils. Ils gardent leur marge d'appréciation, c'est-à-dire que c'est eux qui sont les maîtres à bord et qui décident de suivre un traitement ou pas en ayant cet outil à disposition. Mais prenons par exemple l'exemple d'un médecin qui, en son âme et conscience, décide un jour de ne pas suivre la machine, décide par exemple que le patient n'est pas malade et qui finalement se trompe. Alors là, cela voudrait dire que ce que la machine a préconisé, ou en tout cas proposé comme diagnostic, eh bien, devient un élément pour juger de l'éventuelle faute de ce médecin. Et donc, on fait rentrer la machine dans un raisonnement juridique, dans un raisonnement qui vise à juger le comportement d'une personne. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, de plus en plus, va rentrer dans nos raisonnements, avec des effets qui sont aujourd'hui difficiles à mesurer.
Donc la machine, elle peut avoir pour effet de fragiliser la décision ou les décisions des professionnels de justice, Emmanuel Poinas.
Tout à fait. Si vous voulez, on est en train de basculer au-delà de nos discussions vers de nouveaux systèmes de légitimité sociale avec l'économie numérique. Ça, il ne s'agit pas de le nier. Il s'agit vraiment d'intégrer la protection des valeurs et des principes fondamentaux au cœur des évolutions qui sont en train de se passer. Et mon souci est celui-là, et celui des magistrats est celui-là. Mais très simplement, on n'échappera pas à une relecture de l'intégralité du processus juridictionnel. Je pense que la justice va aller vers du contractuel et que là, on aura une place pour les algorithmes. Par contre, il faudra garder des lieux, des valeurs et des moments où on pourra discuter véritablement des situations individuelles et réinjecter de l'humain et de l'humain de qualité dans les débats qui seront tenus devant les juridictions du futur.
Y compris parce que la justice a besoin d'être ritualisée, pas seulement bien sûr pour les professionnels de justice, mais pour les justiciables. C'est-à-dire il faut aussi que ce soit des moments qui soient des moments incarnés, les procès, par exemple les procédures judiciaires. Emmanuel Poinas.
Moi, je sors d'un procès d'assises où, effectivement, il était, par exemple, très très important que la victime puisse dire un certain nombre de choses publiquement. La tendance est quand même de réduire de plus en plus les phases de conflictualité publique. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile, mais je pense qu'un des enjeux de la légitimité de la justice sera quand même de maintenir ces espaces-là et de nouveaux rituels pour permettre aux justiciables de comprendre de quoi il est question.
Ces tendances qu'on décrit ce soir, qu'on essaie de décrire ce soir, Benjamin Jean, est-ce que c'est quelque chose à quoi il vous semble nécessaire de s'opposer ou bien ce qui compte, c'est l'encadrement et l'information du public ?
Non, mais en fait, je suis entièrement en phase avec ce qui vient d'être dit. Je pense que l'un des enjeux aussi très forts, c'est le développement de la justice privée. Donc il y a de plus en plus aussi d'acteurs qui se veulent intermédiaires et qui peuvent permettre de résoudre des solutions sans aller devant un juge, parce que c'est plus rapide, il peut y avoir plein de raisons pour ça. Et là, aujourd'hui, la puissance publique, en tout cas, n'est quasiment pas présente. Et je pense qu'il faudrait étendre, justement, alors il y a quelques leviers pour ça, mais il faudrait étendre l'action publique ou la présence de l'action publique au-delà de simplement les tribunaux, mais de telle sorte à ce que cette justice privée qui va aller en se développant intègre aussi des notions éthiques et tout ce qu'on vient d'évoquer, en fait, ces considérations du droit comme étant un objet qui n'est pas un objet comme n'importe lequel, et le numérique doit être au service du droit et pas l'inverse.
Mais qu'est-ce que vous entendez par justice privée ?
Justice privée, pardon, c'est des plateformes qui vont facilement pouvoir décider d'une solution entre différentes parties, mais c'est aussi, lorsque vous participez à un jeu en ligne, c'est partie des sujets sur lesquels on travaille en ce moment au sein d'OpenLaw, vous participez à des jeux en ligne, vous avez, peu importe, vous faites un recours contre la plateforme parce qu'il y a un préjudice qui est lié à votre activité ou à une décision de la plateforme, parce qu'elle considère que vous avez triché, vous considérez-vous que ce n'est pas le cas, elle va décider quelque chose, et ensuite, quel recours ? Il y aura toute une procédure qui sera privée uniquement et qui peut léser les personnes d'un point de vue même économique. Donc c'est considérer le rôle que peuvent avoir les grands acteurs du numérique en termes de prise de décision dans des cas de litige avec leurs propres clients ou entre utilisateurs de leurs propres services. Et dans ce secteur-là qui est encore en développement, parce que tout le monde est maintenant sur le numérique, il y a aussi de la justice qui est soumise aussi aux mêmes considérations éthiques qu'on a évoquées.
On voit à quel point, Florence Gzel, le législateur a encore du travail devant lui pour essayer de réguler et d'encadrer toutes ces nouvelles pratiques.
Oui, alors effectivement, c'est un mouvement très important que celui des modes alternatifs de règlement des litiges en ligne. Pour revenir à ce rapport de l'Institut Montaigne que vous avez évoqué au commencement, ce rapport, il a démarré par une étude de terrain, c'est-à-dire qu'on a interrogé des gens qui avaient fait l'objet d'une procédure de divorce ou d'une procédure dans le tribunal de commerce pour leur demander qu'est-ce qui comptait pour eux, qu'est-ce qui était le plus important pour eux dans un processus juridictionnel. Il y a des choses qui sont ressorties, qui sont de bon sens, mais enfin qui méritent d'être dites, à savoir que pour eux, la rapidité, c'est important, et la simplicité, c'est important. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'un des gros enjeux dans cette numérisation de la justice qui est quand même lancée par cette loi de programmation qui a été votée il y a 2 mois, c'est justement de permettre, grâce au numérique, d'avoir une justice peut-être plus rapide et surtout plus simple.
En 10 secondes, un tout dernier mot, Emmanuel Poinas.
Martin Luther King disait « L'injustice où qu'elle soit porte atteinte à la justice où qu'elle soit ». Je voudrais qu'on ne l'oublie pas.
Eh bien voilà, on ne l'oubliera pas grâce à vous. Merci beaucoup pour cette conclusion et merci à vous trois pour cette discussion. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage, hein, Emmanuel Poinas, Le tribunal des algorithmes jugé à l'ère des nouvelles technologies. Ça a été publié cette année aux éditions Berger-Levrault. Merci à vous, Benjamin Jean. On trouvera évidemment tous les renseignements sur OpenLaw, sur Internet et notamment sur notre site franceculture.fr à la page du Grand Moudre. Et puis merci Florence Gzel, là aussi on peut trouver assez facilement sur le net ce rapport de l'Institut Montaigne. Justice, faites entrer le numérique. Merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Jordan Joseph, Amélie Perrault, Antoine Dulster, Virginie Leduo, Cyril Marchand, émission réalisée par Peyre Legras avec à la prise de son Swad Boukorsa.